Décryptage. Anne Corpet.
La dernière fois, j'avais dit trois mots. Désarme. Cette fois, j'ai trois autres mots. Plus vite. C'est ce qu'a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères peu avant une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN la semaine dernière à Bucarest. Alors, les alliés continuent de répondre aux demandes de Kiev, convaincus que la sécurité de l'Europe dépend de l'issue de ce conflit. Mais l'inquiétude grandit quant à la possibilité de soutenir ces efforts à long terme, alors que les stocks commencent à s'épuiser et que même l'industrie américaine de la défense, en dépit de sa puissance, rencontre des problèmes pour accélérer sa production. Cela sans compter les interrogations qui commencent à poindre sur l'ampleur de ce soutien dans un Occident confronté à la crise et à l'inflation. Où en est l'aide militaire à l'Ukraine? C'est la question qu'on se pose ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio pour faire l'état des lieux de l'aide militaire apportée à l'Ukraine, Léo Peria-Peignet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité à l'IFRI, spécialiste de l'armement. Vous êtes aussi l'auteur d'une note qui vient de sortir, Stock, l'assurance vie en haute intensité, donc une note sur les stocks d'armement et de munitions. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, le 30 novembre dernier, en marge d'une réunion de l'OTAN, le ministre ukrainien des Affaires étrangères est donc venu plaider la cause de ces pays auprès des membres de l'Alliance. Une cause soutenue avec ardeur par son homologue estonien. On écoute Urmas Reinsalu.
L'Ukraine doit gagner cette guerre et la Russie doit la perdre. Cela signifie que les pays membres de l'OTAN doivent augmenter leur aide militaire. L'Ukraine a besoin de défense aérienne, de tanks, de missiles à longue portée pour dissuader l'agresseur. Et mon message est clair, les Ukrainiens se battent pour la sécurité de l'Europe.
Donc on l'entend, un soutien très clair des Estoniens à l'Ukraine. Proportionnellement à leurs moyens, les pays baltes, et en particulier l'Estonie, ont fourni un effort supérieur aux autres pays européens pour aider militairement l'Ukraine.
Tout à fait, et c'est à mettre en corrélation, à mon sens, avec leur niveau de leur perception de la menace russe. Il faut voir que les pays baltes, la plupart d'entre eux, ont eux aussi des minorités russes, ou russophones en tout cas, qui peuvent être manipulées ou utilisées comme excuse par le Kremlin pour des manœuvres hostiles, comme ça a littéralement été le cas pour l'Ukraine. Le Kremlin, entre d'autres justifications, a utilisé le fait que les populations russophones d'Ukraine étaient opprimées par Kiev pour justifier son action militaire spéciale.
Alors, on l'a entendu prôner l'envoi de missiles à longue portée à Kiev. Est-ce que les Américains s'y opposent toujours ?
Alors, quand il parle de missiles à longue portée, il faut voir que c'est donc une munition spécifique à un système qui a déjà été envoyé. Aujourd'hui, ces systèmes, donc les fameux HIMARS, peuvent tirer des munitions jusqu'à 80 km, voire un petit peu plus. Et là, l'idée serait de pouvoir leur fournir les munitions qui pourraient porter jusqu'à 300 km. Donc ça, c'est quelque chose qui est complexe, parce que c'est des munitions qui sont assez chères, qui sont aussi assez technologiquement avancées, mais surtout qui donneraient des capacités aux Ukrainiens qui sont très importantes. Pour le moment, il semble que les forces américaines n'ont pas encore tranché sur ce débat, même si aux États-Unis même, elle a ses partisans et ses détracteurs.
Et ça n'empêche pas apparemment les Ukrainiens de viser des cibles situées à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière. Moscou a en tout cas dénoncé ces deux derniers jours des attaques ukrainiennes sur des aérodromes militaires. Alors Kiev n'a pas admis son implication. Ce sont des drones qui ont été utilisés. Ça veut dire que les Ukrainiens ont développé un art particulier d'accommoder les différents armements qu'ils reçoivent.
Alors, si les Ukrainiens ont développé un art, c'est celui d'accommoder les restes, entre guillemets, puisqu'il semblerait, pour le moment de ce qu'on en sait, que ce qui a frappé les aérodromes russes, ce sont des drones soviétiques qui ont plus de 40 ans, qui ont été ressortis des stocks, modifiés et utilisés pour frapper des cibles à très longue distance, avec une précision qui peut être surprenante au vu de la rusticité du système, puisqu'ils sont arrivés à endommager, dirons-nous, au moins deux bombardiers stratégiques à très très grande distance.
Et c'est justement un peu la particularité de ce conflit. On voit cohabiter des armes de type soviétique avec les armements les plus modernes.
C'est ça, vous avez des armes très modernes, qu'on va parler par exemple des missiles anti-radar américains, qui sont adaptés à des avions du pacte soviétique, donc qui étaient pensés contre eux initialement, et qui n'ont pas le même âge, et qui pourtant arrivent à fonctionner ensemble entre les mains des Ukrainiens contre les Russes. De même que vous avez des forces russes qui prélèvent de leur stock des systèmes très anciens, des armes individuelles, des véhicules ou même des équipements de protection, et qui doivent se battre contre des systèmes beaucoup plus modernes ou qui doivent interagir avec.
Alors pour revenir à l'aide apportée par les Européens, je vous propose maintenant d'écouter le Premier ministre britannique. Il s'exprimait le 29 novembre à l'occasion d'un banquet offert par le maire de Londres. Et Rishi Sunak s'inscrit dans la continuité de la politique lancée par Boris Johnson au début de la guerre, celle d'un soutien solide aux Ukrainiens. On l'écoute.
N'ayez aucun doute, nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. L'année prochaine, nous maintiendrons ou augmenterons notre aide militaire et nous leur procurerons des systèmes de défense aérienne pour protéger la population et les infrastructures essentielles dont elle dépend. En protégeant l'Ukraine, nous nous protégeons nous-mêmes.
Alors, le Royaume-Uni est beaucoup plus éloigné des frontières russes que les pays baltes ou que la Pologne, qui aide aussi massivement l'Ukraine. Pourtant, l'aide militaire fournie par le Royaume-Uni est également supérieure à celle de la moyenne des alliés européens. Comment ça s'explique ?
Il faut voir aussi que si les Anglais sont loin, ils sont en Ukraine depuis longtemps, au sens où, dès les événements de Crimée, voire même un peu avant, les Britanniques, les Canadiens, les Américains et un peu les Australiens ont lancé des missions d'aide, d'entraînement et de formation de l'armée ukrainienne, qui a contribué, en plus d'un véritable effort interne, à la moderniser dans ses process et dans sa façon de combattre. Des résultats qu'on voit aujourd'hui. Si cette aide technique ne doit pas être surestimée, il n'est pas sûr que ce soit l'origine de 100% des succès ukrainiens, elle a joué et elle explique aujourd'hui l'implication. À ce moment-là, la France était beaucoup moins impliquée dans l'aide à l'Ukraine. Ça se voit encore aujourd'hui.
Alors justement, la France, fin septembre, se situait au 11e rang sur le plan financier. Et dans la note que vous avez écrite, j'ai lu qu'elle se situait à l'époque au 22e rang en proportion de son PIB. Comment on explique cette faiblesse de l'engagement français, en tout cas jusque début octobre, puisqu'après, on en parlera après, ça a changé.
Alors plusieurs choses, et c'est d'ailleurs ce qu'on écrit dans la note. Il faut voir qu'une partie importante des équipements envoyés par les alliés aux Ukrainiens étaient des équipements assez anciens qui avaient été parfois retirés du service mais conservés au cas où. Chose que la France ne fait plus. Ne fait plus depuis longtemps.
Ne conserve plus ses anciens armements.
Parce qu'elle a décidé que les moyens qui étaient alloués devaient être attribués ailleurs, soit pour soutenir l'activité opérationnelle française, les fameuses OPEX, soit pour soutenir celles sur le territoire national à travers l'opération Sentinelle. Avec des moyens qui sont limités, les forces armées ont dû faire des choix qui sont logiques dans leur contexte et qui font qu'on se prépare aux OPEX, on se prépare à Sentinelle, on ne peut pas en plus se préparer avec les moyens qu'on a à faire une guerre de haute intensité, à garder des stocks, à garder des choses qui ne serviront pas forcément ou qui serviront à d'autres.
Alors, le ministre de la Défense assure que la France se place désormais dans les 5 premiers pays qui aident militairement l'Ukraine. Faut-il le croire ?
Il faudrait revoir certaines données. Il est probable que les données qui sont données dans la note ont changé, tout simplement parce que la France a fait des livraisons qui sont importantes. Sans être d'un volume très, très conséquent, les systèmes qui ont été envoyés sont coûteux. Donc au moins en termes de produits financiers, vous avez quand même une aide qui a augmenté. Ça, ce serait malhonnête de dire le contraire. Maintenant, il s'avère que les autres aussi ont accru leur aide et prévoient de continuer à l'augmenter.
Et est-ce qu'on peut intensifier encore l'aide militaire apportée à l'Ukraine sans affaiblir les capacités de l'armée française, comme l'assure Emmanuel Macron ?
Le fait est qu'elle s'est déjà fait. Les capacités françaises militaires ont déjà été affaiblies. Donc nous avons déjà mis le doigt dans l'engrenage, entre guillemets. Maintenant, il existe encore quelques équipements qui pourraient être envoyés. On pourrait envoyer plus de véhicules de l'avant blindés qui sont en train d'être tirés. Certains systèmes d'artillerie assez anciens et assez complexes, mais toujours efficaces, pourraient également être envoyés. Il reste des pistes.
Alors Emmanuel Macron ne cesse de plaider pour l'autonomie stratégique européenne. Est-ce que la France peut jouer un rôle décisif dans la construction d'une défense européenne avec ce qu'elle a apporté en Ukraine ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage en fait, entre les ambitions affichées et ce qui a été réalisé en Ukraine ?
Le souci, c'est qu'effectivement, la France parle très souvent de construction d'une défense européenne, d'un esprit de défense européen, d'une souveraineté européenne. Or, la France, depuis le début de ce conflit, a été souvent ou régulièrement à contre-temps par rapport à ses alliés sur cette question-là. On se souvient des différentes déclarations du président sur la dissuasion nucléaire, sur le fait qu'il ne fallait pas humilier la Russie, encore très récemment sur le fait que la nouvelle architecture de sécurité européenne devait donner des garanties à la Russie. Ce qui est un peu particulier, puisque la Russie n'est pas l'attaquée dans cette affaire. Tous ces éléments-là font que nos alliés ont pu se détourner peut-être au moins un moment de nous en se disant « mais vous ne faites pas corps avec notre position, votre aide à l'Ukraine a longtemps été très mesurée, alors que vous, c'est vous qui êtes censé être la première armée d'Europe, enfin vous vous présentiez comme telle ces 10 dernières années, or là nous avons une menace qui est directe, votre action, nos alliés peuvent considérer qu'elle n'est pas à la hauteur de nos prétentions passées. »
Ça veut dire ce que vous dites, que peut-être qu'il y avait aussi des raisons politiques au manque d'engagement français au début du conflit ?
C'est pas forcément à moi de me prononcer là-dessus. Toujours est-il que dans les chiffres, dans ce qu'on voit, la France a longtemps été en retard. Elle a rattrapé récemment ce retard, mais elle a tout de même longtemps été, en plus d'être à contre-temps politique, comme nous le disions, elle a longtemps été en retard dans ses volumes, comme dans les montants de l'aide engagée. Alors que, je le répète, la France se présentait comme la première armée d'Europe.
Alors, il y a quand même eu des dispositifs qui ont été montés au niveau européen pour soutenir l'Ukraine ?
Des dispositifs qui soit ont été adaptés, c'est des dispositifs plus anciens qui ont été adaptés pour permettre au pays de soutenir l'Ukraine par des dons, qu'ils soient financiers ou matériels. Également des dispositifs qui existent pour permettre aux membres de l'Union européenne de s'équiper pour eux-mêmes accroître leur potentiel de défense en vue d'une potentielle prochaine crise. Tous ces éléments-là font qu'il y a aujourd'hui, le conflit en Ukraine a donné peut-être l'impulsion qui manquait encore. Au sens où depuis 2014, beaucoup de pays de l'Est avaient quand même repris en main leur défense. Pas forcément au niveau de la Pologne, hein, qui est quand même une exception dans ce groupe, mais elle permet également aux pays d'Europe de l'Ouest, qui pouvaient se sentir moins concernés par la menace russe.
Comme l'Allemagne.
Voilà, exactement. De prendre la mesure de la menace et éventuellement d'y réagir. Maintenant, restons réalistes, nous sortons d'une crise sanitaire difficile, la crise financière. Enfin, la crise économique peut être là dans une certaine mesure à cause de l'inflation et d'autres. Ça restera difficile pour beaucoup de pays de privilégier exclusivement leur armée. Et on voit par exemple que le budget militaire anglais n'augmentera pas.
Alors, en tout cas, ce sont bien les États. On parlait de l'Europe, mais ce sont bien les États-Unis qui ont consenti l'effort le plus important en matière d'aide militaire à l'Ukraine. On va dire qu'ils sont hors catégorie, hein, et Joe Biden continue d'assurer que l'appui américain se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Mais est-ce que les Américains, eux, disposent des stocks nécessaires ?
Alors, quand vous lisez le rapport du CIPRI qui est sorti hier, vous voyez que, pour donner un exemple, les exportations d'armes américaines comptent pour 50% du total mondial. Ça vous donne une idée quand même du rapport de force quand la plupart des pays européens peinent à dépasser 5%. Donc, par rapport à ça, oui, il est normal que ce soit les États-Unis qui aient contribué le plus, d'autant qu'ils étaient engagés auprès de l'Ukraine. Maintenant, par rapport à la suite, qu'est-ce qui va pouvoir se passer ? Donc, comme on l'a vu, la Chambre a changé. Est-ce que c'est très grave par rapport à son soutien à l'Ukraine ? Pas forcément.
Je ne parlais pas sur le plan politique, on y reviendra, mais sur le plan matériel. Est-ce qu'ils ont en stock de quoi continuer à fournir l'armée ukrainienne qui utilise un nombre considérable de munitions ?
Alors, certains stocks de systèmes ont été quand même bien vidés, ou du moins bien amoindris, jusqu'à un niveau qui peut laisser craindre pour la sécurité américaine, encore que. Mais vous avez également un effort réel de la part des États-Unis pour monter les cadences de production. Vous avez récemment une déclaration d'un haut gradé qui déclarait qu'il pouvait faire x6 sur leur production d'obus. Quand les producteurs, par exemple, du fameux Javelin, le missile anti-char Javelin, qui produisent 2100 Javelins par an, voudraient pousser à terme jusqu'à 4000 par an. Donc, certes, il y a un début, je dirais pas forcément de pénurie, hein, on n'en est pas encore là, ça reste les États-Unis, mais il y a une forme de pénurie par rapport aux systèmes qui ont été donnés, sachant que les Américains pourraient également en donner d'autres, qui va également vouloir être compensé par un véritable effort comme on a pu le voir peut-être précédemment dans l'histoire, de la part des États-Unis pour redevenir, pour être un peu lyrique, l'arsenal des démocraties.
Alors, vous évoquiez la question politique en remarquant qu'effectivement, la majorité avait changé à la Chambre des représentants. Ce sera probablement Kevin McCarthy, le futur chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Et la semaine dernière, eh bien, il a réitéré sa mise en garde au sujet justement de l'aide militaire apportée par son pays à l'Ukraine. On l'écoute.
Je pense que la Russie de Poutine commet des atrocités et que si nous avions agi à temps, cela ne se serait pas produit. Mais je ne suis pas en faveur d'un chèque en blanc. Il s'agit de l'argent des impôts d'Américains qui travaillent dur et je veux être sûr que tout l'argent que nous dépensons atterrit au bon endroit. Je veux être sûr qu'à partir du 3 janvier, pour quelques dépenses que ce soit, il n'y ait aucun chèque en blanc.
Est-ce qu'il y a un risque qu'à partir du 3 janvier, l'aide militaire américaine à l'Ukraine se tasse après que les Républicains auront repris leur majorité à la Chambre ?
Qu'elle ralentisse éventuellement, c'est probable. Maintenant, qu'elle s'interrompe, c'est quand même très improbable. Vous avez toujours chez les Républicains une proportion importante de gens qui voient dans la Russie un rival. Et il faut voir le calcul. En 20 ans, l'Amérique a dépensé 1 000 milliards de dollars en Afghanistan pour un résultat sinon nul, on va dire limité. Là, avec moins de 50 milliards de dollars, l'Amérique en passe de neutraliser pour un certain temps son adversaire historique qui est la Russie. Donc le calcul dans certaines têtes, il est quand même vite fait. D'autant que, à mon sens, Joe Biden a aussi donné des gages à l'économie américaine via le Reduction Inflation Act, qui fait que les équilibres internes très particuliers de la démocratie américaine pourraient se satisfaire de ça et poursuivre une politique d'aide.
Et livrer des armes à l'Ukraine, ça peut être aussi un investissement rentable sur le plan industriel. J'allais dire, ça popularise l'armement. Est-ce que, par exemple, les systèmes César français, dont on a beaucoup parlé, peuvent espérer des nouveaux marchés ou les Américains, de leur côté également ?
Alors, pour les Césars, pour ce qui est de Nexter, pour le moment, il y a une commande qui a été avérée, mais il faut voir que le temps de l'armement n'est pas forcément le temps des médias. Une négociation d'un contrat est souvent assez longue, parce que vous avez tout un ensemble de données qui rentrent en compte, notamment ce qu'on appelle les offsets, des compensations industrielles, où le producteur s'engage à produire une partie des systèmes ou à faire des transferts de technologie au pays acheteur. Tout ça, c'est très long à négocier, c'est important, ça explique qu'on verra dans un an. Pour le moment, c'est encore un peu tôt. Néanmoins, il faut aussi voir que tous les pays européens ont une industrie de défense, quasiment, qu'elle soit résiduelle ou importante, qui est également mise à contribution. Et que, je le répète, nous sommes à l'issue d'une crise sanitaire qui a entraîné un ensemble de problèmes sur la supply chain, sur la chaîne d'approvisionnement, qui ne sont à l'heure actuelle toujours pas résolus. Qu'en plus, nous nous situons quasiment tous dans une situation d'emploi fort, ce qui fait que le recrutement nécessaire à l'augmentation des cadences reste très complexe lui aussi, surtout sur les secteurs qui sont déjà en tension. Donc tous ces éléments-là font qu'il va falloir ancrer ce dynamique dans le temps et probablement soutenir les industriels français pour l'export à l'étranger, parce que voilà, la France produit des choses, d'autres produisent également des choses similaires. Il va pouvoir falloir se démarquer. Mais oui, de tout temps, le fait d'avoir vu un matériel au combat, donc ici les Césars, permet une augmentation de sa crédibilité sur le marché. On le voit sur les HIMARS qui ont été commandés par beaucoup de pays de l'Est et d'autres y pensent déjà.
Et est-ce que l'arrivée de l'hiver, ça change la donne en matière de besoins en armes ? Est-ce que le matériel s'use plus vite, par exemple ?
Alors, deux choses justement. L'arrivée de l'hiver ralentit le tempo des opérations. Parce qu'il fait froid, le mauvais temps limite l'utilité de l'arme aérienne, la boue limite les possibilités de déplacement, donc pendant un certain temps, vous allez avoir donc un calme relatif. Ensuite, vous aurez quelques semaines de gel, où là, les opérations seront possibles, puis le début du printemps, où là, la boue va encore calmer les opérations. Maintenant, par rapport à l'usure, puisque ces armes seront probablement moins utilisées, elles s'useront moins vite.
Parce qu'actuellement, le rythme, 7000 obus par jour, dit-on, côté ukrainien ? Non.
Peut-être pas aujourd'hui.
À l'époque de la contre-offensive.
Voilà, la contre-offensive, très probablement. Rappelons-nous qu'au pire moment de l'été, les Russes tiraient jusqu'à plus de 30 à 40 000 obus par jour. Donc on a idée des masses. Maintenant, les quantités de munitions russes disponibles ont beaucoup diminué, donc leur feu a diminué. Les Ukrainiens sont passés sur une politique de préparation des prochaines actions. Donc je pense que le feu quotidien est quand même beaucoup plus réduit. Néanmoins, donc ça permet aussi d'économiser les matériels.
Très bien. Eh bien, je suis obligée de vous interrompre car c'est bientôt la fin de cette émission. Merci Léo Peria-Peignet. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité à l'IFRI, spécialiste de l'armement. Merci à Hélène Avril pour la réalisation et à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer.